Christelle Heuck présente l'Art Nouveau dans Carrefour des Arts.
Marcel Brion, l'art abstrait. Que veut dire abstrait ? Que veut dire concret ? N'essayons pas d'interroger les philosophes là-dessus, ils finiraient de nous dérouter. Marcel Brion a donc choisi d'interroger directement les œuvres identifiées comme abstraites. Cheminement que nous allons tenter de suivre au travers de quelques extraits. L'exposition « L'envolée lyrique » Paris 1945-1956, présentée par le Sénat de la République française au Musée du Luxembourg à Paris, a déjà fait l'objet d'une première émission de Carrefour des Arts. Les artistes qu'elle réunit appartiennent à ce que l'on a appelé l'abstraction lyrique. Notre émission d'aujourd'hui va tenter de cerner ce que fut ce phénomène de l'abstraction. Nous nous laisserons guider par l'ouvrage de référence intitulé « L'art abstrait » que nous devons à Marcel Brion de l'Académie française. Paru en 1956 aux éditions Albin Michel, « L'art abstrait » est l'une des nombreuses publications de ce docteur en droit, historien de l'art et romancier. Un auteur incontournable pour approcher les grandes figures de l'art, parmi lesquelles Giotto, Botticelli, Turner, Bruegel, Bosch, Rembrandt et beaucoup, beaucoup d'autres. Dans son ouvrage sur l'art abstrait, nous en lirons des extraits et nous remercions Fernand Guillot de prêter sa voix. Monsieur Guillot, bonjour.
Bonjour Christelle Heuck.
En exergue de son livre, Marcel Brion cite cette pensée de Léonard de Vinci. Ô chercheur des choses, ne te contente pas de connaître les choses telles qu'ordinairement la nature les produit, mais réjouis-toi de connaître l'origine des choses qui sont dessinées dans ton esprit. Elle invite à s'interroger sur la distance entre les choses telles que nous les percevons et la façon dont notre esprit peut les redessiner. Marcel Brion les note et nous met aussi bien en garde contre les approches philosophiques.
Qu'est-ce que l'art abstrait ? Dès qu'on se trouve obligé de définir la nature d'un art, on constate aussitôt qu'on est trahi par les mots. Ceux que nous employons proviennent d'abord du vocabulaire esthétique qui ne rend pas toujours compte de ce qu'il y a en eux de dur, de limitatif, d'équivoque. Lorsqu'on veut étudier en effet un phénomène vivant, mouvant, malléable, on se heurte douloureusement à la raideur, à la sécheresse, à l'insuffisance de vocable qui laisse dans l'ombre souvent les éléments les plus importants parce que ce sont ceux-là, justement, qu'il est le plus difficile de faire entrer dans une définition. Quand les termes sont empruntés au langage populaire, ils ont peut-être plus de naturel et de spontanéité, mais il ne faut pas attendre d'eux qu'ils expriment les caractères essentiels. De plus, ils représentent d'ordinaire une attitude d'opposition, de raillerie, de refus. L'histoire a retenu les événements qui ont donné naissance aux mots cubisme, impressionnisme, fauvisme. Le fait à l'occasion duquel ils ont été prononcés pour la première fois appartient désormais à l'anecdote. En ce qui concerne le mot « art abstrait », je ne sais pas dans quelles circonstances il a commencé d'être employé. Il est peu propre à caractériser les formes d'art auxquelles il s'applique. Et si nous nous en servons, c'est à défaut d'un mot plus convenable, mieux adapté à son objet. Il est d'ailleurs tout aussi arbitraire de dire « art non figuratif » ou « art non représentationnel », puisque toute œuvre d'art est une figure, puisque toute œuvre d'art représente, alors même qu'elle ne se représente qu'elle-même. La représentation de l'objet le moins matériel qui soit, un rêve par exemple, est une représentation tout de même. Il faut donc poser tout d'abord ce principe que ces termes sont employés ici avec la signification qu'on leur donne d'ordinaire, mais il est bien entendu que nous en usons parce qu'il n'en existe pas de plus convenable. De même d'ailleurs que nous écrivons gothique, baroque ou rococo sans discuter la valeur réelle des mots, mais en les acceptant pour la valeur conventionnelle qu'ils ont dans le langage de tous les jours. Il faut admettre donc qu'art abstrait n'est pas plus explicatif que ne l'est d'autre part art baroque. C'est une étiquette que l'on accroche à une multitude d'œuvres de signification très variées et seulement pour les nécessités du langage. Si l'on voulait discuter les acceptions possibles du mot abstrait et de son contraire en apparence, concret, on se verrait entraîné dans un débat sans fin.
Alors autant interroger directement les artistes. Dans une première étape, Marcel Brion cherche à caractériser la nature de l'art abstrait. Et il cite Jean Harpe pour dénoncer le piège des mots.
Jean Harpe qui précisait l'intention des organisateurs de l'exposition. Je comprends qu'on nomme abstrait un tableau cubiste, car des parties ont été soustraites à l'objet qui a servi de modèle à ce tableau. Mais je trouve qu'un tableau ou une sculpture qui n'ont pas eu d'objet pour modèle sont tout aussi concrets et sensuels qu'une feuille ou une pierre.
Voilà bien la thèse que Marcel Brion va soutenir, la confusion qu'il va dénoncer.
Il y a là une confusion et une équivoque qu'il convient de dissiper préalablement à toute discussion sur l'art abstrait, faute de quoi on prolongera inutilement les débats. Posons tout d'abord en principe que l'œuvre d'art, en tant qu'œuvre d'art, n'est pas abstraite, mais concrète. Elle est un objet, ce qu'une abstraction ne peut pas être. L'abstraction intervient dans le processus de sa création, elle est une des conditions de cette création. Ce n'est même pas la pensée du tableau qui est abstraite, mais seulement son élaboration. Et cette période de création qui aboutit à la naissance de l'œuvre d'art, encore que cette élaboration et cette création soient en elles-mêmes éminemment concrètes. Il est aussi absurde d'affronter ces deux termes pour y fixer des oppositions irréductibles qu'il est abusif de prêter des contours absolus à romantisme ou classicisme.
Le phénomène d'abstraction, dit Marcel Brion, est dans le processus de la création artistique et il appartient aux constantes de l'esprit humain.
Cela est si évident qu'une promenade à travers les salles d'un musée suffira pour nous en convaincre. Les deux tendances profondes de l'élan créateur, l'invention et la reproduction, y sont représentées, et selon que l'une ou l'autre de ces tendances a été prédominante, l'art de cette époque ou de ce pays a incliné davantage vers le figuratif ou le non-figuratif.
Et certains arts sont axés principalement sur la représentation de l'objet extérieur, pris comme modèle du tableau, et dont les formes naturellement sont empruntées au répertoire des formes visibles, perceptibles par les sens, ou sur la représentation de l'objet intérieur, qui s'est formé dans l'esprit de l'artiste.
Il est évident que tout peintre transforme toujours le modèle, même lorsque sa volonté est strictement réaliste. Chez ceux qui se croient le plus étroitement, le plus fidèlement réaliste, intervient à un certain moment la poésie du réel, qui, saturant leurs tableaux, les hausse presque à une sorte d'irréalité. On n'est donc pas abstrait dans la mesure où l'on s'éloigne davantage de la forme vivante. L'abstraction, d'ailleurs, n'est pas le refus de la vie, bien au contraire, elle substitue à la vie de l'objet extérieur qui est mort lorsqu'il passe dans le tableau comme une simple reproduction réaliste, la vie de l'objet intérieur d'une part et la vie du tableau lui-même qui est une projection de l'objet intérieur.
Marcel Brion introduit un rapprochement avec les cubistes avant de nous guider vers l'esprit d'abstraction par rapport à l'esprit de figuration.
Il est tout à fait inutile de chercher dans une peinture abstraite une déformation ou une stylisation de l'objet réel, comme dans le cubisme. Le processus d'abstraction n'est pas du tout analogue au processus de stylisation. Le cubisme travaille sur l'objet initial, l'art abstrait l'élimine ou ne le retient que comme émotion, comme choc moteur.
Chaque fois que nous parlerons d'art abstrait,
il conviendra de distinguer s'il s'agit d'un art abstrait pur, c'est-à-dire comparable à celui qui est pratiqué aujourd'hui par les artistes que nous rassemblons sous ce vocable, ou d'un art d'abstraction au second degré qui consiste à prendre une forme naturelle que l'on schématise, que l'on stylise, soit pour des motifs d'ordre psychologique, soit pour des motifs d'ordre plastique. Considéré sous cet angle, il est vrai que le cubisme peut être regardé comme un art d'abstraction au second degré. La fameuse phrase de Cézanne « Dans la nature, tout se ramène à la sphère et au cube », tant et si mal exploité lorsqu'on la déforme et la détache de son contexte, a servi d'évangile aux cubistes. De même que Juan Gris disait « Un tableau sans intention représentative serait à mon avis une étude de technique toujours inachevée », Picasso niait la possibilité d'un art abstrait, ce qui fait ressortir l'erreur que l'on commet aujourd'hui en faisant de lui un peintre abstrait. « Il n'y a pas d'art abstrait », affirmait-il. Il faut toujours commencer par quelque chose. On peut par la suite enlever toute apparence de réalité. Il n'y a pas plus de danger, car l'idée de l'objet a laissé son empreinte ineffaçable. L'homme est l'instrument de la nature. Elle lui impose son caractère, son apparence.
Marcel Brion affine son analyse dans le chapitre « La nature » et le caractère de l'art abstrait, dans son ouvrage de référence intitulé « L'art abstrait », paru chez Albin Michel en 1956, un des livres fondamentaux traitant de ce courant artistique. Il aborde ensuite l'élément religieux de la peinture abstraite.
L'abstraction n'est pas un phénomène simple, mais l'émanation de tendances souvent très différentes, parmi lesquelles il entre autant de spiritualité que d'intellectualité. Je dirais volontiers même que, et je le démontrerai plus loin, que l'art abstrait me paraît plus capable d'exprimer une haute et profonde spiritualité que ne l'est l'art figuratif, justement parce qu'il ne s'enchaîne pas à la forme représentationnelle et parce qu'il peut évoquer directement, immédiatement, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de cette forme, des états affectifs et émotionnels plus purs que ceux qui empruntent cette forme représentationnelle. Quoi qu'on en pense d'ordinaire, l'art abstrait va beaucoup plus loin dans l'expression, ou pour mieux dire, dans la suggestion du sentiment que n'est jamais allé l'art figuratif, car si nous sommes émus par une image, par un Christ en croix de Gréco ou par une Vénus de Titien, l'émotion nous atteint à travers l'image et par elle et se contamine donc de tous les éléments extérieurs et accessoires inséparables de toute figuration. Impossible par exemple de séparer dans la contemplation d'une Madone de Raphaël le plaisir sensuel, la tendresse humaine et le sentiment religieux. C'est la raison pour laquelle tout grand art véritablement religieux tend vers une abstraction plus ou moins absolue. Il est évident, par exemple, qu'un Christ byzantin presque totalement déshumanisé est plus religieux qu'un Christ de Le Sueur tout plein de rationalisme classique, ou qu'un Christ de Tiepolo tout entier fait de jouissances plastiques de la forme et de la couleur. C'est la raison pour laquelle nous voyons les grandes époques de sentiments profondément intériorisés et de grave spiritualité s'efforcer vers un art d'abstraction, inconsciemment souvent, et seulement parce qu'elles sentent la nécessité de s'affranchir du charnel, de suggérer l'esprit dans ce qu'il a de plus impénétrable au sens, et de ne pas mêler une émotion sensuelle à un état religieux du cœur et de l'intelligence.
Je vous propose un nouvel intermède musical afin de ponctuer la découverte de l'art abstrait au travers du livre de Marcel Brion. « Pierre Cardin a révolutionné le monde de la mode et de la haute couture jusqu'au mobilier et à l'art contemporain. Et l'artiste est venu dans nos studios pour se raconter comme créateur, comme mécène, de sa jeunesse à son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour le clin d'œil, il raconte même qu'il a conçu les habits verts de plusieurs de ses confrères académiciens. Pierre Cardin, artiste, Pierre Cardin, mécène, et en outre, plusieurs interviews des lauréats des prix Pierre Cardin. Nous vous proposons en tout 3 émissions sur l'homme qui a fait entrer la haute couture à l'Académie des Beaux-Arts. Reprise du texte de Marcel Brion, extrait lu par Fernand Guillot. Nous continuons à feuilleter l'art abstrait de Marcel Brion. Après une première partie « Nature et caractère de l'art abstrait », dont nous avons lu de larges extraits, Marcel Brion s'interroge sur l'abstraction constante de l'esprit humain. Il nous livre ses réflexions sur les origines de l'art.
Dès les origines de l'art, c'est-à-dire dès la préhistoire, nous voyons à l'œuvre les deux grandes tendances créatrices de l'homme. Celle qui lui inspire le désir de reproduire les objets qui l'entourent, ou bien des objets qu'il voit dans ses rêves, ou qu'il imagine, tout ceci étant aussi réel pour la mentalité du primitif, et la tendance opposée, qui le pousse à inventer des signes à la place des objets et à donner à ces signes une véritable valeur expressive, à en faire de véritables choses de beauté et des formes symboliques. On a beaucoup discuté sur l'instinct de la création artistique chez le primitif, sur ses causes, son processus et ses diverses significations. Quelle est la véritable signification des décors abstraits que nous remarquons sur les poteries préhistoriques ou proto-historiques, celles-ci aussi difficiles à interpréter que les premières? Sont-ils fortuits ou voulus? Que signifiaient-ils pour l'homme qui les a tracés?
Et dans le chapitre 3, formation d'une esthétique abstraite contemporaine, nous découvrons les voies nouvelles de la peinture au XXe siècle à la recherche de la forme pure. Dans cet élan vers la forme pure, commun à tous ces mouvements, se définit d'une façon plus ou moins ostensible une tendance vers l'abstraction, et chacune de ces écoles, à sa manière, possède sa part d'esprit abstrait. Mais l'art abstrait lui-même, de son côté, reflète plus ou moins nettement ces différentes tendances. Ce sont elles qui donnent à chacune de ces acceptions son caractère particulier. Et dans ce chapitre, nous pénétrons ensuite plus profondément dans le monde des divers mouvements. De grandes figures sont évoquées comme celles de Piet Mondrian, Kandinsky, Paul Klee, Frank Kupka, Robert Delaunay, Malevich, sans doute le plus abstrait de tous les peintres, appartenant bien entendu à l'abstraction géométrique. Un chapitre entier est ensuite consacré à la sculpture et à la recherche de formes et d'espaces nouveaux, et un autre à l'esthétique du temps et du mouvement. La dernière partie de l'ouvrage examine les grands courants de la peinture abstraite. Sans créer des catégories et des étiquettes, Marcel Brion repère des familles d'esprits et des courants. Il les illustre à partir de ce qu'on peut appeler les grands exemples, autrement dit les pères de l'abstraction. Chez chacun d'eux, il souligne une idée force. En Gerhard Schneider, il voit un héritier passionné du romantisme.
Chez Schneider, le torrent des passions romantiques, des inquiétudes originelles, et de ce trouble complexe de souffrance et de joie également créatrice, débouche avec la magnificence dans une plénitude de force et de beauté qui est à la fois dramatique, exaltante et vitale. Comme les romantiques, Schneider a capté et soumis quelques-uns des grands secrets de la nature primordiale, quelques-unes de ses énergies élémentaires qu'il a disciplinées et contenues dans des formes, agité de mouvements incessants, expression des vertus tragiques qui sont les visages mêmes que l'esprit revêt pour pénétrer et animer la matière cosmique.
Marcel Brion attire notre attention sur l'introduction du noir dans les toiles abstraites.
C'est une des grandes conquêtes de la peinture abstraite que cette découverte de la splendeur plastique du noir. chez Soulages, chez Hartung, chez Nicolas de Staël, chez Schneider, la palette du noir s'est enrichie d'une variété d'expressions véritablement prodigieuses. Dans l'art figuratif, avant Manet, qui en avait déjà découvert la somptuosité, le noir était presque banni pour la raison qu'on le regardait traditionnellement non pas comme une couleur, mais comme la négation de la couleur même. Et pour ce motif aussi qu'il offre dans la nature peu de motifs plastiques. L'emploi qu'en font aujourd'hui les peintres abstraits, avec le succès que l'on connaît et dont l'usage risquerait même chez les mineurs de glisser à l'abus et à une certaine mode du noir, même aboutit à une véritable découverte des valeurs plastiques du noir comme tel et de sa valeur dramatique qui répond intensément aux sentiments tragiques qui agitent notre époque et qui s'expriment également dans notre art.
Avec le noir, c'est la nuit qui fait irruption dans la peinture.
Soulages a peint des toiles qui sont en quelque sorte des équivalents des hymnes à la nuit de Novalis. Une extrême pudeur, une vigilante retenue et une vocation particulière aussi qui lui permet de dominer et de rendre lumineuses les ombres de la nuit ont dirigé dans cette élection de la dominante sombre l'éclatante puissance d'un talent qui a trouvé son épanouissement. Maître des arcanes des ténèbres, il n'y a pas trouvé comme les surréalistes des rêves obsédants, mais au contraire une lucide architecture où la passion éclaire et soutient la raison.
Ici, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre quelques lignes supplémentaires splendides à propos de Soulages.
S'il y a une angoisse à l'origine de la dominante sombre des grandes peintures de Soulages, cette angoisse devient ordre et lumière dans la manière même dont elle prend forme. La puissance même avec laquelle Pierre Soulages construit et discipline ses volumes monumentaux, dont l'austérité en noir et brun a quelque chose de farouche, agite et ordonne la nuit elle-même. Les surfaces de couleur claire chantent avec un particulier éclat lorsqu'elles représentent la lumière que l'on découvre au terme d'une ardente et pathétique recherche parmi les masses obscures dressées comme les débris d'un cataclysme géant. Mais ces vestiges mêmes, sombres et calcinés, sont déjà les substructions de futures architectures supposant la naissance d'un nouvel ordre, d'une nouvelle clarté.
Et chez Raoul Ubach, c'est la solidité qui retient l'attention de Marcel Brion.
Le désir de revenir à la solidité et au mystère du minéral a poussé Raoul Ubach à construire de grandes compositions rocheuses, alourdies du sommeil de la terre, du poids de l'ardoise, d'une dureté capable de rivaliser avec le grain le plus serré des métaux, farouches, secrètes, mais empreinte en même temps d'une intensité sacrée qui fait penser aux religions originelles, mal débarrassées encore de la pierre et du limon.
Tandis que Hans Hartung est retenu comme un peintre de protestation et d'opposition.
Le caractère agonique de la peinture de Hans Hartung présente son esthétique comme une protestation, une opposition. Entendons-nous. Opposition contre les points de vue paresseusement traditionnels et contre les formes d'expression coutumières. Chacune de ses œuvres est ainsi, en même temps qu'une protestation, une affirmation de l'unité mystérieuse qui relie l'individu à toutes les formes cosmiques.
Et c'est peut-être l'une des caractéristiques les plus partagées de l'aventure abstraite que de retrouver les forces élémentaires et universelles. Et Marcel Brion de citer Paul Klee.
Les artistes élus sont ceux qui pénètrent jusqu'à la région de ce lieu secret où les puissances primordiales nourrissent toute l'évolution.
Après cette incursion dans le monde des forces cosmiques, Marcel Brion propose Serge Poliakov pour calmer le jeu.
Avec Serge Poliakov, nous entrons dans le domaine de l'immobilité et du silence. De l'immobilité et du silence qui suivent les bouleversements géologiques. La lave se refroidit et se durcit. Les roches ignées se contractent puis s'abaissent. Tout le feu reflue vers le centre et s'enferme dans son creuset minéral. La saisissante grandeur des peintures de Poliakov vient de ce qu'il ne trahit jamais les secrets de la matière, de ce que son œuvre tout entière se fait secret.
L'art abstrait s'est souvent retrouvé dans le recueillement de l'art sacré. On pense inévitablement à Manessier.
L'œuvre de Manessier doit être regardée et éprouvée dans son ensemble de la même façon qu'on regarde et qu'on éprouve un vitrail, et peut-être même des reflets de vitrail, puisque lorsqu'il compose des vitraux, il en élimine tout élément figuratif, qu'il n'y laisse en somme que ce qui serait les reflets d'un vitrail figuratif. Cette disparition de la figure efface en même temps tout ce qui matérialise l'art sacré par trop de précision, par trop de ressemblance avec l'ordinaire et le quotidien.
Cette dimension nous ramène à Kandinsky, qui fut à l'origine de l'art abstrait et auquel on doit le fameux traité du spirituel dans l'art paru en 1912. Selon Marcel Brion, il y avait chez Kandinsky une nécessité d'abstraction. Rappelons sa célèbre déclaration qui a valeur de manifeste.
L'abstraction est une conséquence de l'attitude mentale intérieure.
Carrefour des Arts était heureux de faire avec vous ce voyage au cœur de l'art abstrait. Vous avez entendu une lecture d'extrait d'un livre majeur, L'art abstrait, par Marcel Brion de l'Académie française, paru en 1956 chez Albin Michel, éditeur. Le cadre de l'émission nous a bien entendu limité dans la sélection de ces extraits. Nous les avons choisis de façon à transmettre au mieux l'esprit de cet ouvrage et nous espérons qu'ils vous auront éclairé sur un mouvement artistique dont l'abord peut souvent paraître difficile. Nous remercions Fernand Guillot d'avoir si bien fait vivre de sa voix la pensée de Marcel Brion. Nous rappelons que cette émission venait en complément d'une autre précédemment diffusée sur l'antenne de Canal Académie à l'occasion de l'exposition présentée à Paris au Palais du Luxembourg, L'envolée lyrique, Paris 1945-1956. Elle nous avait permis de recevoir Patrick Gilles Persin, commissaire de cette exposition. Nous avions avec lui découvert ou redécouvert les grands abstraits de l'immédiat après-guerre, Atlan, Bazaine, Bissière, Fautrier, Hartung, Manessier, Mathieu, Poliakov, Riopel, Schneider, Soulages, Wolz, Dzaouvouki et beaucoup d'autres. Encore un grand merci à vous Fernand Guillot et à bientôt pour un nouveau Carrefour des Arts sur Canal Académie.